Bonjour, très chers auditeurs, Catherine dans notre rendez-vous mensuel de À votre santé. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous allons retrouver Margot qui va nous parler de l'homme en tant que source d'énergie renouvelable. Puis j'accueillerai Mélanie Gontier aujourd'hui pour notre dossier. Elle nous parlera de la femme lunaire. Puis nous retrouverons Marine dans C'est quoi le bonheur pour des massages. Et puis Alice, dans l'assiette Le Monde et moi, nous parlera du fer. Puis nous terminerons dans la rubrique Trucs et astuces avec le vinaigre blanc. Voilà, donc on commence tout de suite avec Margot. Bonjour Margot.
Bonjour à tous. On se retrouve donc pour une nouvelle chronique Carte Blanche. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme en tant que source d'énergie renouvelable. Alors, tout au long de la journée, le corps humain, on le sait, il est capable de produire de l'énergie qui nous permet de bouger, de respirer, mais aussi de digérer. Et si aujourd'hui je vous disais que cette source d'énergie inépuisable peut être transformée en énergie électrique au service de chacun. Alors, aujourd'hui déjà, quelques idées ont été mises en place afin d'exploiter cette énergie humaine. Par exemple, des trottoirs électriques ont été installés en 2011 dans les rues de Toulouse, pour alimenter les lampadaires grâce à un système de dalles piézoélectriques. Donc en marchant sur les dalles, on va alors générer des charges électriques et produire de l'énergie stockée dans des batteries. Aux Pays-Bas et à Londres, des discothèques écologiques s'auto-alimentent par le mouvement de danse de clubbers, donc grâce à ce principe de dalles piézoélectriques. Il existe aussi maintenant des salles de sport écologiques. Par exemple, en 2007, l'expatrié français Lucien Gambarota, qui vit maintenant en Chine, a développé des vélos d'appartement permettant de créer de l'électricité tout en faisant du sport. L'innovation consiste à convertir l'énergie cinétique qui est dégagée par les sportifs en une électricité par les moyens de capteurs disposés sur ces machines. Elle a été par la suite brevetée en 2008 par l'américain Jay Wallen, le PDG de Green Revolution, fabricant et fournisseur d'appareils de fitness utilisant maintenant cette technologie. Donc à Hong Kong, on retrouve la salle de sport California Fitness Club, qui est l'une des premières à avoir usé ce mécanisme. Il peut assurer donc l'éclairage de la salle par l'utilisation de steppers, vélos, tapis de course, qui peuvent produire jusqu'à 300 watts pendant leur utilisation. C'est à peu près 12 minutes d'autonomie d'un ordinateur portable, par exemple. Et donc, de ce point de vue, c'est vrai que le rendement peut sembler faible. Selon le site infofitness.fr pour le système Green Revolution, ce système peut fournir à plus grande échelle jusqu'à 300 kW par mois à raison de 20 vélos en activité. Et là, par contre, ça représente la moitié de la consommation annuelle en électricité du vélo. D'autres exemples, au Danemark, un hôtel écologique, Kron Plaza Copenhagen Towers, a installé ses vélos dans sa salle de sport. Et pour motiver ses sportifs, l'hôtel a équipé chacun de ses vélos d'un iPhone fixé sur le dos qui permet aux utilisateurs aussi de surveiller leur production d'électricité. Et les récompenses aussi en fonction de l'électricité rapportée à l'hôtel, en leur offrant des petits déjeuners par exemple. Vous avez peut-être aussi l'occasion de tester le concept e-bike, c'est des bureaux installés dans les gares de Paris, par exemple, qui permettent de recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables en attendant le train. Ben, c'est le même principe, c'est l'énergie humaine qui permet de recharger vos appareils. Donc voilà, pour l'instant, ça reste encore au stade d'exception et j'espère que dans un futur proche, on en verra beaucoup plus et qu'on pourra peut-être même s'équiper à la maison pour pouvoir économiser au niveau de notre électricité, voilà, pouvoir économiser aussi de l'argent, c'est sûr. Donc voilà, un bon moyen de réduire la facture d'électricité tout en faisant de l'exercice. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt.
I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But
cause you don't understand. Everything you have done, why is everything so wrong? This is a happy end, come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and I feel, finding myself making every possible mistake.
Voilà, vous êtes bien sur CFM. Donc, on retrouve Mélanie aujourd'hui qui va nous parler de la femme lunaire. Bonjour Mélanie.
Bonjour Catherine.
Alors Mélanie, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Mélanie Gontier, j'habite Parisot, dans le Tarn-et-Garonne, et je suis actuellement naturopathe et sophro-relaxologue.
Voilà, et tu donnes des conférences, notamment la dernière conférence que j'ai écoutée et qui m'a donné envie que tu viennes nous rejoindre, c'est à propos de la femme lunaire.
Oui, tout à fait. Alors on va parler donc aujourd'hui de la femme lunaire. Alors qu'est-ce que la femme lunaire ? Donc la femme lunaire, c'est remettre la femme, l'essence féminine, à travers les cycles de la lune. Donc l'essence féminine est reliée à la lune depuis la nuit des temps. L'astre lunaire brille depuis des millions d'années et elle symbolise la transformation. Car elle change, on le sait, et elle se modèle au long d'un cycle de 28 jours en forme de croissant ou de disque tout au long donc de ce rythme de 28 jours.
Mmh.
On connaît aujourd'hui donc par des études scientifiques, et je parlerai notamment, je citerai les études de biodynamisme, l'impact de la lune au jardin et sur la croissance des plantes en général. On est aussi témoin de l'impact de la lune, de son influence sur notre planète, les marées qui sont directement liées à la lune.
Oui, là, c'est indéniable.
C'est indéniable.
On ne peut pas réfuter cette influence.
Exactement. Alors, cette métamorphose de la Lune, elle imprègne donc tous les rythmes biologiques des êtres vivants sur Terre. Mais qu'en est-il alors de l'énergie de la Lune sur le rythme biologique de la femme ? Et c'est ce que nous allons voir maintenant.
Et il est important, oui.
Donc, dans les sociétés antiques... Alors, excusez-moi, je vais d'abord vous parler du rythme de la Lune et de son cycle sur l'impact qu'il a sur l'échelle de vie de la femme, à échelle de notre cycle de vie. Donc dans les sociétés antiques, on utilisait des archétypes comme outils pédagogiques. Alors ces archétypes permettaient, par identification à l'image, permettaient à l'auditeur un processus d'éveil intérieur. On a trois grands archétypes aujourd'hui pour la femme. La vierge, la mère et la vieille femme. Alors au cours de sa vie, la femme passe par plusieurs étapes. Elle rencontre des changements physiques et intérieurs. Elle traverse des passages qui sont déterminants et qui déterminent justement notre cycle biologique et qui rythment notre vie. Alors ces quatre grandes étapes sont marquantes et transformatrices, on va en parler. Et j'aimerais juste citer les travaux de Miranda Gray, qui rapproche ces quatre étapes du cycle féminin avec donc les quatre grandes phases du cycle lunaire. Donc on a pour la première étape du cycle de la femme dans son cycle de vie, la puberté. Alors la puberté, c'est l'apparition des règles. Cette étape correspond donc à l'archétype de la Vierge, qui nous renvoie au premier quartier de lune. On a ensuite la grossesse. Une femme passe par un état de grossesse ou pas, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie de l'évolution de vie d'une femme.
Elle peut ou elle va devenir mère.
En sachant quand même que c'est le propre de la femme de pouvoir procréer et enfanter. Oui. Voilà. Donc la grossesse, qui est l'archétype donc de la mère et qui correspond à la phase de pleine lune. On a ensuite la ménopause, qui là est l'archétype de la vieille femme, donc toute la sagesse, qui correspond au dernier quartier de la lune, donc la phase décroissante. Puis vient la dernière étape, dont on parle un peu moins, qui est celle de la mort, forcément, qui termine le cycle de vie féminin et qui renvoie à la lune, au cycle de la nouvelle lune. Donc le cycle qui se termine et à la fois qui redémarre. Une mort pour une renaissance. Voilà. Ensuite, alors pour parler du cycle lunaire et du rapprochement avec le cycle de la femme à l'échelle de notre cycle menstruel. Alors le cycle menstruel, c'est quoi déjà pour en parler? Il faut savoir que le mot menstruation vient du grec méné, qui veut dire la lune. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on utilise ce terme, hein. En effet, une femme ne prenant pas de pilules ou d'autres moyens de contraception chimique à base d'hormones verra très souvent son cycle se calquer sur celui de la lune, avec son ovulation en phase de pleine lune et ses règles en phase de nouvelle lune. Ça arrive que ce soit inversé. On peut des fois avoir son ovulation en phase de nouvelle lune et ses règles en pleine lune. Mais généralement, une femme qui ne prend pas de traitement d'hormones, de moyens de contraception, à son cycle qui se calque sur celui de la lune. On a d'ailleurs un cycle de 28 jours qui correspond au cycle de la lune.
Tout à fait,
oui. De 28 jours et demi, 29 jours, à peu près. Voilà. Donc, un cycle dure 28 jours, on vient de le dire. Le premier jour des règles correspond au début du cycle de la femme et il se termine avec le premier jour des règles suivantes. Donc pour certaines femmes, le cycle sera de 21 jours jusqu'à 30 jours ou plus pour d'autres. C'est vrai que ça, c'est variable.
Ça varie un petit peu.
Tout à fait.
Oui.
Selon les femmes. Puis on a aussi selon parfois des périodes de notre vie, tout simplement. Ça peut être parce qu'on a un dérèglement, parce que on a des choses qui nous perturbent psychologiquement, qui fait que le cycle varie. Hein. Les émotions sont toujours très liées hein, à notre corps et aux manifestations
et oui,
du corps.
On le sait, hein.
Tout à fait. Donc, le cycle menstruel de la femme est composé de 4 phases, comme d'ailleurs celui de la lune.
Oui, c'est vrai.
Oui. Mmh. Alors, la première phase, donc on a la phase folliculaire. Donc, cette phase, lors de cette phase, on a une production importante d'œstrogènes. Donc, les œstrogènes, pour en rappeler ce que c'est, ce sont les hormones sexuelles de la femme. Et avec cette production importante d'œstrogènes, nous avons un épaississement, de la muqueuse utérine. Ensuite, on a la deuxième phase, qui est la phase d'ovulation. Alors, un ovule, une fois qu'il est arrivé à maturité, situé donc dans notre ovaire, hein, il va être expulsé et il se déplace dans la trompe de Fallope jusqu'au centre de l'utérus. Donc ça, c'est la phase d'ovulation. On a ensuite la troisième phase, qui est celle dite progestative. Donc là, on a la sécrétion de progestérone. Donc la progestérone est sécrétée en plus forte quantité à partir du 14e cycle féminin, il faut le savoir.
Oui.
Excuse-moi, oui, tout à fait, 14e jour du cycle.
Je suis.
Je vois ça très bien. Donc à partir du 14e, je vais y arriver, jour du cycle. Mm-hmm. Et donc cette sécrétion de progestérone permet le maintien et la densification en fait de la muqueuse utérine. Et là, alors l'utérus est prêt à recevoir l'ovule. Donc soit fécondé. Oui. S'il y a grossesse ou non fécondée. Et enfin, la quatrième Et dernière phase, c'est la phase dite menstruelle. Donc cette phase 1 correspond à celle des règles. Donc effectivement, si l'ovule n'est pas fécondé, il finit par disparaître et le surplus de muqueuse utérine est alors évacué. Et ce sont les règles. Donc effectivement, pour parler un petit peu des saignements, les saignements, c'est véritablement ce surplus en fait de muqueuse que le corps évacue, éjecte, puisqu'il n'a pas reçu l'œuf fécondé. Mmh. Voilà.
Ah, et on parle aussi de sacré, de sang. Je sais plus.
Tout à fait.
Royal
oui.
ou.
Effectivement, ou, mais on parle de sang sacré.
De
oui,
sang
effectivement.
Sacré. Hein.
Et dans très, enfin, pendant très longtemps et dans beaucoup de civilisations anciennes, c'était effectivement, on avait des rituels ouais. de nouvelle lune lorsque les femmes avaient le sang menstruel qui coulait et on faisait des offrandes à la terre de ouais. son sang. On s'en mettait même sur le corps. Certaines civilisations même le buvaient. C'était vraiment, voilà, ça a un caractère complètement sacré, effectivement. Et ça l'a gardé dans beaucoup de civilisations pendant très longtemps.
C'est bien dommage, je trouve, que l'on trouve ça sale ou
oui.
ou en ce moment, enfin voilà, dans notre culture,
c'est pas ancré du tout.
Du tout, non.
Non,
c'est,
non.
c'est quelque chose qui n'est pas agréable du tout, qui, enfin c'est dommage, je trouve.
Effectivement, et on a perdu ce caractère. Alors. En plus d'avoir perdu ce caractère sacré, on a aussi également perdu cette dimension de compréhension de notre corps et de notre cycle.
Oui.
Et c'est ce qui est important. Et c'est vrai que on va le voir comment aussi la naturopathie peut être un outil précieux justement pour aller à la rencontre de son naissance féminine.
D'accord.
Donc effectivement, on va voir comment est-ce que voilà la naturopathie peut nous aider pour se reconnecter donc à nos cycles et à notre essence féminine et le comprendre. En effet, je trouve qu'il est important aujourd'hui d'avoir connaissance de son cycle, ce qui nous permet de comprendre du coup et d'appréhender notre nature féminine. Ça permet donc de vivre en conscience et d'être dans l'accueil de ce qui opère en nous plutôt que dans le déni, voire le conflit. Car effectivement, tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans nos sociétés, et notamment ici en France et en Europe, parce que c'est quand même voilà très dans la culture européenne, c'est ouais. gênant d'avoir ces règles souvent pour les femmes. C'est un moment qui est difficile parce que c'est douloureux, parce que c'est contraignant. Et on a toutes ces dimensions où on aimerait du coup occulter ce passage de notre vie, ce passage même cyclique puisque c'est tous les mois qu'il revient. Et c'est vraiment quelque chose, on le sent hein, autour de nous, que c'est un fardeau même pour beaucoup
même
de
des
femmes.
Des moyens de contraception qui suppriment complètement les règles, hein,
on a
aujourd'hui, les stérilets, les stérilets, les pilules.
Oui, tout à fait.
Et c'est bien dommage parce que les règles, ça sert vraiment à quelque chose.
Bien
et
sûr.
Et c'est pas bon de les supprimer.
Mais parce que déjà on bloque le processus. Hormonal,
oui,
on le bloque, donc c'est forcément mauvais pour la santé et pour le corps,
oui.
psychologiquement également. Enfin, on nous balance des hormones qui bloquent le processus, donc il y a des répercussions psychologiques. Et effectivement, comme tu le dis très bien, c'est important parce que il faut savoir que pour la femme, l'utérus est un émonctoire en fait, il
tout
permet
à fait.
Nettoyer le corps et
c'est
on a cette
fondamental.
Chance. Nous avons cette chance, nous les femmes, de
oui.
pouvoir nous nettoyer tous les mois naturellement,
oui.
de vider l'ancien, de vider ce qu'il y a de surplus, de faire peau neuve et de se régénérer, parce
oui.
que c'est vraiment ça, on se
oui.
régénère et c'est une dimension très importante.
Oui. Alors je t'écoutais là par rapport au cycle de la lune, mais ce serait aussi un moyen naturel de contraception.
Exactement.
Que d'être à l'écoute de.
Tout à fait. Mais pendant très longtemps, on utilisait de toute façon la lune pour effectivement savoir où on en était dans notre cycle. La pilule, ça n'a existé, ça existe, pardon, depuis très peu de temps.
Oui, oui, oui.
Nos grands-mères, arrière-grand-mères et encore beaucoup plus loin n'avaient pas de moyens de contraception hormonale. Donc, effectivement, c'est un très bon moyen de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est dans son cycle sans utiliser de moyens de contraception hormonale.
Chimique, ouais.
Chimique, voilà. Tout à fait. Et pour continuer dans cette idée, je voulais juste rajouter une chose. Je pense vraiment que lorsqu'on lève en fait les barrières psychologiques, on permet ainsi au corps de s'alléger aussi de ses barrières physiques. Et forcément, là où c'est douloureux, là où c'est contraignant, bah, ça le devient forcément moins, voire plus du tout.
Eh oui.
Et très souvent, quand on commence à être en accord avec ces cycles, qu'on les comprend, et qu'on voilà qu'on les accepte, qu'on est dans l'accueil, effectivement on le vit beaucoup mieux psychologiquement, mais même dans les manifestations corporelles où on a très souvent beaucoup plus de douleurs alors qu'on en a eu pendant des années, tout simplement parce qu'on est dans l'acceptation de ce qui opère en nous.
Donc il y a plus de maux de ventre,
exactement,
de migraines,
tout à
de
fait.
Nausées, de tous ces
exactement.
Signes qui sont souvent présents parce qu'on refuse,
mais encore une fois, tout à fait, hein, les émotions hein, qui sont directement liées à nos manifestations corporelles et aux maux du corps. Quand je dis maux, M-A-U-X.
Tout à fait, oui.
Voilà. Alors, quelques conseils quand même, hein, on va donner quand même quelques conseils naturaux donc pour soulager les maux liés aux règles. Alors, premier conseil, donc si le ventre est congestionné avec l'impression du bas-ventre engorgé et les reins douloureux, ce qui peut arriver assez fréquemment. Alors déjà, premier conseil, marcher le plus possible. C'est vrai que la marche, ça favorise la circulation et ça décongestionne en fait naturellement. Et c'est radical. Généralement, quand on a le ventre qui est vraiment congestionné, on fait une bonne marche et ça soulage.
Mais c'est vrai qu'en période de règles, on a souvent l'envie de s'activer,
de bouger,
de faire du ménage, de nettoyer.
Mais c'est tout à fait ça.
Ça correspond à cette période de nettoyage et en même temps ce besoin de bouger pour décongestionner
le bassin. Et tout à fait.
Et
comme tu le dis très bien, ça correspond exactement à cette période de nettoyage parce qu'on fait place nette. Hein, encore une fois, on abandonne dans la symbolique de notre cycle. Effectivement, on abandonne ce qui n'a plus lieu d'être, pardon. Et souvent, les rituels faits lors de ces phases de règles et donc de nouvelle lune, c'est tout à fait ça. C'est on abandonne, on laisse mourir. C'est un peu la mort symbolique pour aller vers autre chose, vers la renaissance. Donc, on nettoie, on laisse aller, on fait du tri, on range les placards, on bouge, on a envie effectivement de faire peau neuve.
Et ça fait du bien.
Et ça fait du bien. Autre conseil, donc pour le ventre congestionné et les reins douloureux, on peut également appliquer du chaud sur le bas du ventre et sur les reins. Alors la chaleur va aussi activer la circulation sanguine, cependant prenez vos précautions, car forcément le fait d'activer les pertes de sang vont s'amplifier.
Ça donc il faut un peu plus fort.
Le débit de sang risque d'être plus fort. Enfin, vous pouvez appliquer donc 2 gouttes d'huile essentielle de lanstic pistachier sur le bas du ventre jusqu'à 3 fois par jour si besoin. Alors pour les douleurs avant les règles cette fois, il faut masser le ventre. Enfin, je dis il faut. C'est bien de masser le ventre avec.
On peut le faire.
Tout à fait. Pas il faut, mais on peut le faire avec de la sauge sclarée. Donc la sauge sclarée, c'est vraiment une huile essentielle, et même la plante, hein, la sauge sclarée, je dirais que c'est la plante de la femme.
Tout
à fait, elle est formidable celle-ci. Donc effectivement, masser le bas du ventre avec de l'huile essentielle de sauge sclarée, alors je dis bien sclarée, parce que c'est une huile essentielle avec laquelle, qu'il faut utiliser, mais celle-ci et non pas l'huile essentielle de sauge officinale.
De toute façon, l'officinale, on la trouve pas.
Exactement.
Hein, donc,
elle est très difficile à trouver. Voilà, c'est rare quand même qu'on la trouve, mais pas se tromper. Donc répétez jusqu'à 3 fois par jour si besoin.
D'accord.
Pour les douleurs pendant les règles, si les douleurs sont très fortes, On avale directement sous la langue ou dans un peu de miel 2 gouttes d'estragon ou 2 gouttes de basilic jusqu'à 2 fois par jour. Ça peut être également sur un comprimé neutre. Vous pouvez aussi masser le bas du dos et le bas du ventre au niveau des ovaires avec 2 gouttes de ces huiles et répéter 2 fois par jour si besoin.
Mmh. Eh bien, tu as peut-être d'autres choses.
Eh ben, un autre
pour
conseil
terminer.
Pour terminer.
Oui.
Pour ce qui est des troubles de l'humeur, c'est bien connu. Ah oui. Généralement, les femmes, lorsque nous avons nos règles,
on
il faut le dire.
Dire,
elles sont irritables.
Mais on ne peut pas faire autrement.
Voilà.
C'est comme ça.
Exactement. C'est comme ça. Ça fait partie de nous. Donc souvent, irritabilité, coup de blues, voire mélancolie. Hein, ça, c'est
Les trois en même temps.
Les trois en même temps. Exactement. C'est un cocktail. Pimenté. Donc, pour les troubles de l'humeur, je vous conseillerais d'appliquer sur votre plexus solaire et à l'intérieur de vos poignets 2 gouttes d'huile essentielle de marjolaine. Vous pouvez également le diffuser dans une pièce dans laquelle vous pouvez prendre le temps pour vous retrouver. Mmh. Ça, c'est bien aussi. Être au calme et être seul, parfois, ça fait du bien.
Oui.
Surtout dans ces moments-là. C'est vrai que c'est une façon de se tourner vers soi. Et vraiment une façon d'apaiser son esprit et ses humeurs. Et le silence, hein, c'est un bon outil pour se détendre. Donc n'hésitez pas non plus à marcher, à vous aérer. Une bonne balade au bord de l'eau ou dans la nature, un moment de méditation au pied d'un arbre permet réellement de faire le plein d'énergie et de se recharger. Voilà. Alors pour conclure, j'avais juste envie de vous dire donc 2-3 petites choses. Avant tout, j'avais envie de vous dire de ne pas oublier de vivre votre féminité en accord avec vos cycles. Accueillir toute sa beauté et sa puissance qui donne ce pouvoir aux femmes d'être lunaire, de créer et de se créer. Accueillez les énergies qui opèrent en vous et le fait même d'être une femme qui chaque mois se prépare à la fécondité, qu'elle ait lieu ou pas. Oui, parce que un homme en effet ne peut pas toujours comprendre nos mots ni nos transformations, encore moins les ressentir ni les vivre. Mais c'est ce qui fait la différence entre nous. Alors acceptez cette différence et soyez surtout bienveillante et compréhensive envers vous-même. Le corps est votre réceptacle, votre utérus une matrice, et soyez attentive. Si vous renouez avec votre dialogue intérieur et que vous êtes à l'écoute de votre corps et des changements qui opèrent en vous, si vous les comprenez, cela vous permettra de les accepter et de vous accepter davantage. Acceptez d'être femme, gardienne des cycles, magicienne de la vie, c'est ce qui fait toute votre beauté.
Oh, c'est joli ça. Merci Mélanie.
Merci.
Eh bien, merci Mélanie pour toutes ces belles choses. Alors, je tiens à dire que nous allons retrouver Mélanie très prochainement dans les chroniques. Elle viendra nous parler de plein de belles choses autour du féminin. Parce que voilà, Margot part vers de nouvelles aventures. Elle entre dans sa vie professionnelle, elle ne sera plus étudiante et elle est débordée. Voilà. Merci Mélanie,
merci beaucoup.
À très bientôt et je
merci
suis très heureuse que tu prennes le relais. Et tout de suite, une nouvelle pause musicale.
J'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confet. Par la fenêtre ouverte se lève, j'irai bien danser avec les feuilles du peuplier. La lune pâle traîne encore un peu regarde-la et ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tant fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte, triomphe l'été.
Maintenant l'heure de la chronique d'Alice. Alice qui est diététicienne et conseillère en alimentation santé. Bonjour Alice.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, je pense que tu vas nous parler du fer, du sodium, du chlore et du potassium.
C'est ça, on continue la série des minéraux. Donc on va commencer par le fer. Le fer, on en a environ 4 grammes dans notre corps. Et on a plus de la moitié de ce fer qui se trouve dans le sang et qui sert à transporter l'oxygène au tissu. Il faut savoir qu'on en perd aussi un petit peu dans les urines du fer. Et le besoin quotidien de fer se situe entre 10 à 12 mg pour l'homme et 18 mg pour la femme. Et les besoins sont augmentés en cas de grossesse, d'hémorragie et de croissance. L'assimilation du fer dépend aussi des autres éléments qu'on a dans un aliment. C'est-à-dire que tout le fer qu'on va ingérer ne va pas passer dans le sang au niveau des intestins. Il faut qu'il y ait de la vitamine C en même temps, ingérée en même temps que le fer pour une absorption optimale en fait.
D'accord.
Alors, où est-ce qu'on trouve ce fer ? Alors, on en trouve dans les produits animaux. Donc, dans la viande rouge, on a 2 à 3 mg pour 100 g. Mais on en trouve aussi dans beaucoup d'éléments végétaux. Donc, notamment les légumineuses, c'est les légumes secs, donc les lentilles. Dans les lentilles vertes, on en trouve 9 mg pour 100 g. Dans les pois secs, les haricots et les pois chiches également. On en trouve dans les amandes et les noisettes, 3,5 mg pour 100 g. Les algues et le persil, on est à 6,2, c'est-à-dire deux fois plus que dans la viande rouge. Et dans certaines plantes sauvages, on est à 7, 8 mg pour 100 g, notamment dans l'ortie, les graines de tournesol. Ça, c'est pas forcément sauvage, mais je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. Donc les plantes sauvages, voilà, on a l'ortie, on a 7 à 8 mg pour 100 g. Et on a également dans les figues et les graines de tournesol entre 5 et 8 mg pour 100 g. Donc voilà, on a des sources de fer qui sont pas uniquement animales.
Oui, c'est très varié. Hein.
Voilà. Ensuite, on va parler de 3 minéraux qui interviennent dans l'équilibre des liquides du corps. C'est le sodium, le chlore et le potassium. Ils sont tous les 3 indispensables. Et ils agissent aussi dans la régulation de l'équilibre acido-basique, le fameux équilibre acido-basique
oui,
dont j'avais parlé.
Oui, tu nous en as parlé.
Donc le sodium, on le trouve dans... Le principal apport, c'est le sel, le chlorure de sodium, le sel de table. Donc les principales sources de notre alimentation, c'est dans le pain, le fromage, la charcuterie, les préparations industrielles. Et avec ces apports-là, on se retrouve à ingérer 10 à 12 grammes de sodium par jour, alors qu'on en aurait besoin de 3 à 5 grammes par jour. Donc on est largement en excès.
Oui.
l'excès de sodium plus le déficit en potassium, parce que le potassium se trouve dans les légumes et qu'on en mange assez peu généralement, ça amène à l'hypertension artérielle. Il faut absolument qu'il y ait un équilibre entre le sodium et le potassium dans l'alimentation. On a des sources de sodium qui sont naturelles, entre guillemets, qui sont pas ajoutées, en tout cas, c'est dans les céleris et les blettes, par exemple. Le potassium, on en a besoin de 2 à 6 grammes par jour. On le trouve dans les légumes verts, les légumineuses, les fruits frais et séchés et les pommes de terre. Aussi les bananes, les châtaignes, les lentilles, les graines de tournesol et le persil. Donc ça, c'est des aliments qu'on peut vraiment inclure largement dans notre alimentation en essayant de diminuer ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le pain, le fromage, la charcuterie et préparations industrielles pour équilibrer ce rapport potassium-sodium. Le potassium, il est aussi très intéressant pour réguler l'équilibre acido-basique. Donc quand on a trop d'acidité, ça diminue cette acidité. Donc on va vers quelque chose de plus basique,
intéressant,
qui est
oui.
beaucoup plus en lien avec la santé. Et le chlore, on va terminer par le chlore. On en a besoin de 800 mg par jour. On le trouve principalement dans le sel de table et dans les fruits de mer et les algues. Donc ça, on est rarement en carence. Et ça, donc il n'y a pas trop de soucis avec le chlore.
Merci beaucoup Alice pour toutes ces informations. À la prochaine fois.
À la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
J'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein-sein, si nu pointu, zédo du deux. Noisettes craquent, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes lèvres entrouvertes pousse un framboisier rouge argenté.
Bonjour Marine, dans ta chronique C'est quoi le bonheur aujourd'hui, tu vas nous parler du massage.
Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du bien-être par le massage, parce que le massage est une façon très agréable d'entrer en contact avec les autres ou avec soi-même. Alors il suffit de pas grand-chose, deux mains, un peu d'huile, et vous pouvez prendre soin de vous et être en bonne santé. Parce qu'en effet, le contact physique fait partie de nos besoins vitaux, au même titre que de boire et de manger. Intuitivement, nous le savons lorsque, par exemple, nous frottons une zone douloureuse ou lorsque nous prenons dans nos bras une personne qui est triste.
Ça fait du bien.
Voilà, parce que ça fait du bien. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la peau est le plus grand organe du corps humain. Il se compose de millions de récepteurs qui réagissent à chaque contact et envoient des informations jusqu'au cerveau. Donc le message « sensation agréable » libère des endorphines, que l'on appelle aussi hormones du bonheur. Donc le résultat, c'est un sentiment de bien-être qui nous envahit. Voilà, ça c'est pour l'aspect mécanique hein, du massage. Donc dans de nombreuses cultures, le massage fait partie des habitudes et elles en font un art de vivre. Alors si vous voulez aussi en faire une habitude, eh bien je vous propose un petit rituel d'automassage à faire le matin dans la salle de bain, par exemple. Donc vous prenez une huile végétale vierge, c'est-à-dire sans ajout, n'importe laquelle, une huile d'olive, de sésame, de pépins de raisin, celle que vous avez dans la cuisine, peu importe. Vous prenez quelques cuillères à soupe dans une tasse, vous versez dans le creux de la main, vous la chauffez quelques instants pour qu'elle soit à température du corps. Et vous commencez par la tête. Massez fermement votre cuir chevelu en mettant les mains bien à plat. Vous parcourez tout le cuir chevelu comme pour faire un shampoing. Vous continuez ensuite sur le visage et les oreilles. Pensez aux tempes et aux petits os derrière les oreilles. Vous remettez un peu d'huile dans vos mains si vous sentez que vous en avez besoin et vous massez le cou et la nuque avec la paume et les doigts. Vous passez ensuite aux bras. Vous massez fermement avec des mouvements circulaires. Au niveau des coudes et des épaules, vous insistez avec des mouvements plus étirés sur les parties allongées. Ensuite, vous passez au massage du buste, donc la poitrine, le ventre, le bas-ventre, avec de grands mouvements circulaires et dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, pour respecter le mouvement de la digestion. Le plexus solaire qui se place au niveau du sternum avec des mouvements droits et de haut en bas. Pour le dos et la colonne vertébrale, essayez d'aller le plus loin possible, mais sans forcer, hein, bien sûr, avec des mouvements simples. Massez ensuite les jambes, les chevilles, les genoux, avec des mouvements circulaires et peut-être plus rapides, comme pour les bras, des mouvements bien étirés sur les parties allongées. Et les zones les plus charnues, les cuisses, les fessiers, les mollets, pétrissez comme on pétrit une pâte à pain, par exemple. Ajoutez de l'huile à chaque fois que la peau glisse un petit peu moins. Terminez en vous massant les pieds, vigoureusement, sur la plante, avec les deux paumes de haut en bas. Allez jusqu'aux orteils, que vous massez avec l'extrémité des doigts. Voilà, une fois le massage terminé, restez assis quelques instants, profitez, laissez agir l'huile et rincez ensuite sous une douche tiède dans un bain parfumé pour prolonger la détente.
Waouh ! Tout simplement.
Voilà.
Ou même encore plus simplement, vous donnez la bouteille d'huile à votre conjoint et c'est lui qui s'occupe de tout.
Voilà, c'est ça. Mais ça, on n'a pas toujours l'occasion d'avoir quelqu'un qui nous masse. Donc, on est vraiment
ou un voisin sympathique. Voilà. Se faire masser, c'est du bonheur aussi. Merci voilà, Marine. Oui. Merci beaucoup. Après cette nouvelle pause musicale, nous retrouvons Alice qui nous parlera du magnésium. À tout de suite.
And understand, desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to love.
Dans la rubrique trucs et astuces, aujourd'hui le vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, il est fabriqué à partir du sucre de betterave ou de maïs, voire de malt fermenté. Puis il est transformé en acide acétique avec l'ajout d'oxygène. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. En fait, c'est un produit complètement naturel, peu agressif, bon marché et efficace. Donc il gagne à être connu, réutilisé. C'est un excellent nettoyant, désodorisant, désinfectant, détartrant, qui est inoffensif pour notre santé et qui est entièrement biodégradable. Hein, contrairement à de nombreux produits ménagers, il ne dégage aucune émanation dans l'atmosphère. Et c'est surtout, et je tiens à en parler en ce moment, c'est un désherbant qui ne pollue pas les sols. Hein. Le seul petit inconvénient, on va dire, ce serait son odeur. Mais bon, avec quelques gouttes d'huile essentielle ou même quelques fleurs macérées ou quelques peaux d'orange, de citron, d'agrumes, on peut très bien parfumer le vinaigre blanc. Donc il est utilisé pur, dilué ou en bouteille, en vaporisation selon l'usage. Vous n'avez que l'embarras du choix. Donc par exemple, c'est un produit d'entretien utilisé pur comme anti-calcaire, anti-tartre, hein, dans la salle de bain, les robinetteries. Vous pouvez l'utiliser également chaud dans les toilettes. Hein, donc il va simplement falloir vider l'eau des toilettes, donc avec un gobelet en plastique, vous videz le fond de la cuvette et vous versez du vinaigre chaud avec un peu de bicarbonate de soude. Vous allez laisser le produit faire effet quelques minutes, peut-être une demi-heure, vous verrez, hein, selon l'état de la cuvette et de l'entartrement. Et c'est vraiment un moyen efficace et sain, surtout de détartrer, de désinfecter. Vous pouvez l'utiliser également comme produit à vitre, comme assouplissant pour le linge. En même temps, il va détartrer la machine, il va raviver les couleurs du linge. Dans le lave-vaisselle, hein, vous pouvez mettre par exemple 500 ml au fond du lave-vaisselle. Pour les cafetières, les bouilloires aussi, vous faites 50-50, hein, au niveau de la quantité d'eau et de vinaigre. C'est en fait un nettoyant universel pour tous les jouets des enfants, les accessoires, les objets des animaux domestiques. C'est même efficace contre les poux. Hein, vous pouvez le mettre pur ou un peu dilué carrément sur la tête. Bon, attention aux yeux, bien sûr. Hein, avec une serviette chaude sur les cheveux et vous rincez quelques minutes après. Alors, je vous disais tout de suite, hein, comme désherbant, avec le vinaigre blanc, on ne risque absolument pas de s'empoisonner ni de polluer les nappes phréatiques ou les mares voisines. Hein. Il ne laisse pas de résidus nocifs dans le sol ou dans les plantes. Donc, par exemple, avec un litre pur de vinaigre blanc, on va pouvoir désherber 10 mètres carrés. Donc ça vaut le coup parce que franchement, pour moins de 2 euros, on va vraiment se débarrasser des mauvaises herbes, mais sans polluer. Hein, donc vous pulvérisez par temps ensoleillé, hein, l'effet est quasi immédiat. Les herbes vont griller tout de suite et... En fait, la végétation va rester déprimée, j'aime pas dire ça, mais bon, pendant plus d'un an. Mais c'est vrai que parfois, il y a trop de mauvaises herbes et bon, il faut pas toutes les enlever. Hein. Elles sont très, très utiles, mais bon. Et on peut répéter l'opération jusqu'à 6 fois par an pour en améliorer l'efficacité. Enfin voilà, donc le vinaigre blanc, franchement, à avoir dans ses placards. Et avant de se dire au revoir, j'aimerais vous faire part, si vous souhaitez vous former en naturopathie, devenir naturopathe ou simplement acquérir des connaissances de base solides pour vous maintenir en bonne santé naturellement. Vous pouvez, dès le mois de septembre, rejoindre mon nouveau programme de formation à Villefranche-de-Rouergue. C'est un programme ouvert à tous. Il comprend une dizaine de modules pour apprendre les bases de la médecine naturelle, comme l'aromathérapie, la phytothérapie, l'alimentation, la gestion du stress, etc. Des techniques manuelles aussi, comme la réflexologie, le massage californien. Donc les cours ont lieu le week-end, au début de chaque mois. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur mon site bien-être en Aveyron, tout en attaché, .learnybox.com, page rencontre, formation en naturopathie. Donc vous retrouverez ces adresses en podcast sur le site de CFM. De même, vous pourrez retrouver l'adresse de Mélanie, Mélanie Gontier, www.terrearcenciel.com. Et j'aimerais terminer aussi par une petite annonce pour le festival pour l'école de la vie, Julien Perron, qui crée une école alternative. Donc il organise un festival le 11 juillet 2015 sur le site de Cantercel. C'est à 50 km de Montpellier, dans les Cévennes. C'est le premier festival pour l'école de la vie. Donc il y aura des conférences, des ateliers, des spectacles, concerts autour d'une école alternative, d'une nouvelle manière d'enseigner, d'apprendre. Vous pourrez retrouver toutes les infos aussi en podcast. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute de CFM, mais surtout à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Au revoir. You.